à tout le monde. Simplement, comme la tradition le veut, pour cette Sainte Saturnin, très bien soulignée d'ailleurs, on parle. Alors tout d'abord, le privilège revient à la chorale de Bigorre, qui chaque année donc introduit l'apéritif. Et nous avons chaud au cœur de vous écouter. Je reviendrai donc sur un de vos collègues, Jojo Romega, qui nous a quittés subitement et soudainement il y a quelques semaines. Il nous manque à tous, c'était un fidèle. J'ai le souvenir de Jojo comme d'une personne humble, sympathique, sensible, sociable, n'en parlons pas, par nature. J'ai aussi le souvenir d'un homme talentueux, il faut le dire. Chanteur, d'une part, comédien, capable de jouer du dramatique ou du lyrique. Il suffisait de le voir ici, sur ces planches, rappelez-vous, les théâtres, les télétons, rien que le fait d'apparaître, même sans dire un mot, il émerveillait la salle. Il enthousiasmait et on avait un peu de mal à repartir chez nous le soir. Chère chorale, les chansons que vous allez interpréter, nous allons les dédier à Jojo. À vous. Alors cette année 2016 aura été donc une année charnière et une année de transition. Je veux rendre également hommage à Grégory Barou qui a porté donc pendant 4 ou 5 ans la charge et la responsabilité de cette association. Je disais que ça a été une année de transition parce qu'on a cru à un moment qu'effectivement il n'y aurait pas la relève. Force est de constater qu'à Loubajac, je le dis assez souvent, alors ça va à Loubajac, mais ça va aussi dans le monde rural, et on peut s'en enchanter. On a tout le temps la ressource pour trouver la relève. À ce sujet, je tiens à remercier donc le nouveau président du comité des fêtes, Guy Alves. Il doit se cacher, viens me voir, s'il te plaît, et toute son équipe pour avoir déjà repris le témoin, pour avoir également honoré le repas du troisième âge à la fin octobre et pour avoir donc organisé hier soir le repas de la tartiflette. Sachez, toi et ton équipe, que le conseil municipal, comme il a fait par le passé, sera toujours à l'écoute et très attentif à vos projets. Il essaiera évidemment dans ses moyens d'essayer de vous aider. Alors la vie d'un village, la vie d'une commune, quelle qu'elle soit, c'est aussi des festivités, c'est clair, nous en avons tous besoin aujourd'hui, mais c'est aussi de répondre donc au quotidien de nos administrés. Et c'est vrai que le conseil municipal, donc, pour ça, il est fait pour ça, il est au devant de la scène. C'est la raison pour laquelle, comme je l'avais évoqué l'année dernière, que les programmes d'investissement que nous sommes imposés, exigés, avec quand même des revenus modestes et des aides de plus en plus restrictives, nous allons les faire, les réaliser. Tout d'abord, nous avons, pour minimiser nos charges de fonctionnement et répondre à des critères d'environnement, changé le 3/4 des ampoules de l'éclairage du public. Alors ça paraît anodin le jour, beaucoup moins anodin, vous le comprendrez, la nuit. On a la sensation avec ces nouvelles ampoules qu'on éclaire un peu moins. Sauf que les nouvelles ampoules ou le nouvel appareillage, les nouvelles technicités permettent d'avoir une lumière donc plus horizontale et beaucoup moins en façade, de façon à sécuriser à la fois la voirie et les trottoirs s'il y en a. Ce n'est pas neutre, parce qu'en termes de pollution, ça permet de réduire donc de 60%, et en termes, nous sommes tous aussi sensibles, en termes pécuniers, ça permet de réduire la facture de 62%. Pour l'Aubagea, donc, la dépense de l'éclairage public, qui est de 5 000 euros, passera normalement dès l'année prochaine autour de 1 500-1 700 euros. Le projet donc, de l'environnement ne s'arrête pas que sur l'éclairage public. Nous nous sommes engagés avec la communauté de communes, avec également donc, la mairie de l'Aubagea, à contractualiser donc, avec le syndicat d'électrification, qui est pionnière en la matière. Nous avons demandé donc, à ce syndicat, par l'intermédiaire donc, d'un technicien, de venir faire le diagnostic de tous les établissements de la communauté de communes, certainement, mais aussi de la commune de l'Aubagea, à savoir la salle des fêtes, à savoir la future mairie, à savoir l'église. Cette personne viendra faire un diagnostic et nous dira si le matériel de chauffage ou si l'isolation sont performants. Il y amènera très certainement sa touche et nous permettra éventuellement d'avoir une réduction en termes d'énergie autour de 30%, ce qui n'est pas non plus négligeable, ce sont les premiers sous gagnés. L'année dernière, j'avais évoqué, dans une autre dimension financière, tout ce qui a trait à l'accessibilité, concernant les établissements liés au public. Il faut savoir que par l'intermédiaire de l'intercommunalité, en 2014, on avait fait un diagnostic. Un diagnostic qui nous avait laissé à terre. Parce qu'effectivement, il suffisait de regarder le classeur. Alors, si on commençait au début, ça allait, on faisait une lecture. Mais si on commençait par la fin, il y avait pléthore de zéro. Rien que l'Aubagea en avait pour 150 000 euros ou 200 000 euros, et on refermait le classeur. Ça ne vaut pas qu'à l'Aubagea. Je pense que ça a valu pour toutes les collectivités. Il faut savoir que c'était un investissement impulsé par l'État et obligatoire, je pense, depuis les années 2005, me semble-t-il, les années 2006 ou 2007, peu importe, engager l'État dans un subventionnement de 80%. Mais l'État, quand il a fait l'addition de toutes les subventions qu'il était susceptible de donner à toutes les collectivités, il s'est fait peur. Il a revu la copie, je dirais, il a assoupi. Il n'a pas négligé les éléments d'accessibilité, mais il a fait preuve de bon sens. Enfin, un peu de bon sens, de temps en temps, ça ne nous fait pas du mal, bien au contraire, ça nous fait vachement de bien. Et il faudrait continuer dans le bon sens, on va le voir tout à l'heure. Donc la facture de cette accessibilité, qui était au début de 150 000 euros, ne concernant plus que deux bâtiments sur l'Aubagea, à savoir la future mairie, à savoir donc cette salle des fêtes, par rapport à l'espace sanitaire. Par contre, nous avons obtenu de la part des bâtiments de France, puisque nous avons notre église et également le cimetière classé, nous avons obtenu une dérogation qui nous permet donc de ne pas faire des travaux. Parce qu'effectivement, si on commençait à attaquer le chantier par là, ça aurait été très compliqué et peu tenable. Je reviens maintenant sur la mairie. L'année dernière, donc, il y a deux ans, même trois ans, nous avons acheté donc, la propriété de Madame Lucie. Nous allons en faire donc, une mairie. Nous avons installé donc, un équipement sportif à côté. Et cette mairie dont on va voir le jour, enfin, la réhabilitation de ce bâtiment est affectée à mairie dont on va voir le jour en 2017. Il nous a fallu mobiliser donc, une partie du budget 2016. Il nous faudra mobiliser, attirer l'attention des conseillers départementaux et des conseillers régionaux, une partie en 2017 pour justement étayer notre plan de financement et faire les travaux. Nous avons, il y a peu de temps, choisi un architecte. Nous avons rendez-vous avec lui lundi pour essayer de discuter, d'expliquer notre philosophie et surtout que sa technicité, son savoir corresponde à l'enveloppe qu'on a allouée. Je tiens profondément, je m'adresse à mes conseillers municipaux, qu'on tienne bon par rapport à l'enveloppe dont nous sommes exigés. Je vais parler d'un autre sujet donc, qui nous préoccupe depuis un an et demi, hein, depuis bien avant 2015, et un sujet donc, qui a trait à la communauté de communes, ou plutôt la Grande Agglo. Il faut savoir que depuis 2015, la préfète donc, a eu un projet de réduire donc, le nombre d'interco dans notre département, et plus précisément chez nous, autour du pays de Lourdes, elle nous a demandé donc de rejoindre 6 autres intercommunalités, notamment la ville de Tarbes et sa périphérie, pour en former qu'une qui s'appellera donc la Grande Agglo, Tarbes, Lourdes, les Pyrénées. Ce n'est pas demain matin, c'est aujourd'hui, puisque c'est à partir du 1er janvier. Deux choses, je ne reviendrai pas sur le passé et sur la forme de procédure, je pense que José en parlera tout à l'heure. Simplement deux choses. D'un côté, donc, nous avons une préfète qui a ses pouvoirs renforcés depuis 4-5 ans et qui a appuyé sur un bouton et qui a utilisé donc, la loi, le passé outre, pour nous l'imposer. Simplement, je considère qu'elle n'était pas seule de ce point de vue. Et on l'a aidé à appuyer sur le bouton. On l'a même favorisé, on l'a même impulsé à appuyer le bouton. Je veux parler de la commission départementale intercommunale. Parce que franchement, là, ce sont nos élus. Hein. Maires, conseillers départementaux, responsables du département, conseillers régionaux et aussi parlementaires. Hein. Vous le savez très bien qu'ils ont été favorables dès le départ, à la construction de centre Grande Agglo, malgré les oppositions ou les avis négatifs des conseils municipaux. Je dis ça, c'est une atteinte, donc, d'une certaine manière, à la démocratie. Il ne faut pas dissocier, d'un côté, je ne la défends pas, la préfète, mais je dis franchement qu'elle a été aidée, de ce point de vue, par nos collègues. Très bien. Notre communauté de communes du pays de Lourdes, elle a démarré en 2002 ou 2003. J'étais aussi avec quelques-uns de mes collègues, artisans de cette future organisation, à l'époque, qui avait comme vocation donc d'assurer des compétences régaliennes, vous les connaissez toutes, le développement économique, les ordures ménagères, pour les principales, mais aussi à l'époque, et c'était un défi, qui avait aussi souhaité donc mettre en place un service à la population, un service à la proximité qui était cher à nos administrés. Entendons par là tout ce qui était petite enfance, tout ce qui est petite enfance d'ailleurs, tout ce qui est scolaire, périscolaire, extrascolaire. Beaucoup d'intercommunalités dans le département nous demandaient pourquoi effectivement vous avez mis ce service à la population, qui est très coûteux, mais c'est quand même à la fois l'éducation de nos enfants qui deviendront des adultes par la suite, et qui, je l'espère, prendront les bonnes décisions, et donc qui nous a entraînés, et là j'ai plus le fil, excusez-moi, qui nous ont entraînés donc, à faire un service à la population, harmonisé sur l'ensemble du territoire, hein, qui a permis de pérenniser certains établissements scolaires, et je parle de Loubaja, parce qu'à un moment donné, on était mis à mal par rapport à l'effectif, et d'avoir un service de qualité. Certains de nos collègues qui étaient dans des intercommunalités en dehors de ce département nous enviaient à un moment donné. Il ne faudrait pas, du coup, au nom de cette grande action, que tout soit fichu en l'air et je pèse mes mots. Ne laissons pas à cette assemblée gigantesque, je crois que 130 conseillers communautaires, laisser instaurer une espèce d'hégémonie. J'insiste sur le mot hégémonie, qui entraînerait une déshumanisation, il faut se le dire, une déshumanisation, je pèse également mes mots, et qui empêcherait et qui serait irrespectueux de ce que nous avons mis tous en place. Service public, c'est aussi une histoire, c'est aussi un passé, c'est aussi des choix, c'est une philosophie, c'est une culture. Et je ne verrai pas pourquoi, au nom d'une grande instance, tout devrait être laminé. Alors vous le savez bien, cette semaine, ça va continuer. On a été visité, on a été courtisé, je dirais même. Hein. C'est le mot qui convient. J'ai cru entendre tout à l'heure par certains de mes collègues qui avaient aussi des petits soulèvements et des mécontentements qui se justifient. Alors nous avons été courtisés par deux personnes. L'un donc des candidats officiellement depuis un mois, mais on le sait depuis le début qu'il est candidat. L'autre, il n'est pas encore officiellement candidat. Il est dans une expectative et dans une réflexion avec un certain comptage, m'a-t-il confié. Mais en tout cas, les deux, je suis respectueux déjà de ce qu'ils ont envie de faire et de leur ambition. On sait très bien qu'ils sont candidats avant même que la préfète ne prenne l'arrêté du schéma il y a un an en 2015. C'est pour vous dire. Quelques-uns de mes conseillers municipaux et de mes adjoints sur la base du volontariat ont voulu avec moi les rencontrer. Nous avons discuté. Nous avons évidemment échangé les points communs mais aussi les divergences. Et nous leur avons signifié aussi tout notre mécontentement par rapport au fait que souvent, le fait d'évoquer la représentativité, ou plutôt la gouvernance, à un moment donné, a empêché, ou plutôt inhibé, toute réunion pouvant être intéressante et qui aurait permis, il y a un an, voire un peu plus, de bâtir un socle commun, je dis bien un socle commun, et d'orienter un peu le projet dont on voulait faire. Nous n'y sommes pas arrivés sous le simple prétexte d'une certaine gouvernance. Je continue et je terminerai mon propos là-dessus. Le mot primaire est très à la mode en ce moment. Hein ? Il y a les primaires à droite aujourd'hui qui vont se terminer donc vers 19h. Et très certainement, il va y avoir des primaires, donc, à la fin de l'année, toujours nationalement, avec la gauche. Bien, nous aussi, nous avons nos primaires, vous ne le savez pas, la semaine prochaine. D'accord ? C'est gratuit, mais déjà un peu au poste. Nous avons rendez-vous jeudi soir, si ma mémoire est bonne, au futur siège de la communauté de communes, à la communauté de communes donc d'Ossel pour l'instant. Et nous avons souhaité, nous les ruraux, qu'il y ait aussi un candidat. Sauf qu'aujourd'hui, il y a deux candidats. Pour être candidat par la suite à la Grande Agglo le 15 janvier ou le 14 janvier. Mais on veut y aller en bloc, on veut y aller en force, on ne veut pas être désunis. Donc de ces deux candidats, Jean-Claude est candidat, de ces deux candidats, il faudra en choisir un. Moi, je veux dire à ce candidat, Jean-Claude sourit, je souris moi aussi, je veux dire à ce candidat qu'il n'oublie pas d'où il vient. D'accord ? Je fais confiance à Jean-Claude de ce point de vue. Je veux dire aussi à ce candidat qu'il ne faut pas qu'il pratique une politique politicienne, avec des tractations qui pourraient influer ici ou là. Je veux dire aussi à ce candidat, qui représentera en quelque sorte donc les populations de moins de 1500 habitants, ça me gêne de dire rural, je veux dire également à ce candidat qu'il doit être vigilant par rapport à la nouvelle instance, par rapport au nouveau bureau, par rapport aussi à la commission permanente, que la représentativité corresponde bien à notre territoire, qui est riche, mais aussi diversifié, et c'est là aussi toute la difficulté. Je dis également, Jean-Claude, puisque tu es tout seul, Marbégor n'est pas là, je dis également à ce candidat qu'il faut éviter le fossé qui se creuse entre les populations à densité importante et les populations moyennes ou faibles comme les nôtres. Vous remarquerez que je n'emploie pas le mot urbain ou rural. Parce qu'il n'est pas question, Jean-Claude, de mettre en dualité, il n'a jamais été question de notre part, de mettre en dualité ou en opposition le monde rural ou le monde urbain. Puisque de toute façon, nous sommes complémentaires. Et il serait dramatique de les opposer, hein, parce qu'effectivement, nous avons besoin les uns des autres. Et je terminerai là-dessus, d'essayer d'être le plus clair possible, le plus lucide possible et le plus juste possible. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de la Saint-Saturnin. Merci.